C'est une joie encore de partager la parole avec vous ce matin. On a commencé une série d'études sur la nécessité de revenir au fondement. Vous vous souvenez ou pas? Vous avez déjà oublié. Eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. On va rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait rappeler un texte de l'Écriture qui nous dit que premièrement, revenir au fondement, c'est revenir à la parole. C'est revenir à la parole. Dernièrement, je discutais encore avec quelqu'un qui m'avançait certaines choses et je lui ai répondu, j'ai dit, mais que dit la parole? Que dit la parole? Parce que des fois, on a des opinions, on a des avis, mais on se rend compte, si on ouvre la parole, ce qu'on dit n'est pas bon. Et donc c'est important que le fondement soit sur la parole. On avait relu ce texte qu'on va lire ensemble dans Matthieu 7, 24, 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a fondé sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Le roc, c'est Jésus, Jésus qui est la parole. Et nous voulons faire des paroles de Jésus le fondement de notre foi. Dans Ésaïe 54, verset 2, on a rappelé aussi quelle est la vision, une partie de la vision de l'Église, élargir, nous ouvrir vers l'extérieur, à ne pas être l'église bocale, mais l'église locale, qui est en connexion avec la cité dans laquelle elle vit. C'est ce que nous essayons de faire. Mais le texte dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages. » Mais la phrase se termine par « Affermis tes pieux ». Et c'est ce que nous voulons faire au travers de cette série d'études, oui. Nous voulons continuer de nous élargir sur l'extérieur, nous voulons ouvrir nos cœurs pour apprendre à mieux connaître ceux qui nous entourent, mais nous ne pouvons le faire que si nos pieux sont affermis. Quand il y a une tempête de vent, si vous avez élargi la tente et que vous avez gardé les mêmes pieux, ça risque de faire mal. Et on avait vu trois points la dernière fois, que je rappelle simplement, par rapport à la situation qui était, je vous rappelle qu'on suit l'histoire de Néhémie, et par rapport à la situation qu'il y avait à Jérusalem, on avait constaté qu'une des forces de Néhémie, c'est qu'il n'était pas dans le déni. Et le premier point, c'est ne soyons pas dans le déni. On va en reparler aujourd'hui. Le deuxième point, c'était face à une situation difficile, prier. Tout commence par la prière. Et puis le dernier point, c'était, mais après avoir prié, eh bien, mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous à l'œuvre pour remettre en place, rebâtir ce qui a besoin de l'être. Et on a terminé sur ce point et je voudrais continuer sur ce point, cette nécessité de rebâtir, de reconstruire. Eh bien, ça va être le thème de notre prédication, reconstruction. Reconstruction. Besoin de reconstruction. Lorsque l'on veut construire, on a vécu ça et on n'a pas fini de le vivre puisque j'en parlais avec quelqu'un ce matin, le local à côté n'est pas terminé, même s'il a bien bien avancé, tout n'est pas terminé. Mais quand on a fait ce local, quand on a pensé à ce local, eh bien on n'a pas appelé le maçon tout de suite, on a d'abord réfléchi. On a fait des plans, on s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait, on a parlé avec le conseil d'administration, on a été en contact avec le service d'urbanisme de la ville de Colomiers. Ça a été des longues semaines de réflexion. On a demandé à un architecte de venir, etc. Donc on ne reconstruit pas sans, ça va être le premier point, sans prendre le temps de l'analyse. On peut dire des phrases toutes faites, voilà, il faut revenir à la parole, il faut, mais prenons le temps de l'analyse. C'est ce que Néhémie a fait, nous allons ouvrir nos Bibles, si vous le voulez, ou sinon vous suivez sur le diaporama. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, on continue notre lecture. On avait vu le chapitre 1 et le début du chapitre 2 la dernière fois. Cette fois-ci, nous allons lire du verset 11 au verset 15 dans le chapitre 2. Voici ce que dit Néhémie. « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. » Bien que Néhémie ait clairement, et il le dit d'ailleurs, qu'il ne l'a pas partagé pour l'instant, il est sûr qu'il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Donc il pourrait passer au-dessus de l'étape de l'analyse. Mais c'est la volonté de Dieu, allez. Non. Il va lui-même, il a entendu des personnes lui parler de la situation à Jérusalem. Mais lui, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Et il prend le temps d'aller voir par lui-même. Il veut prendre le temps de bien analyser les choses lui-même. C'est important de ne pas laisser les autres nous dire, mais de chercher Dieu pour que lui-même nous montre les choses. Dans les entretiens pastoraux, nous avons parfois des personnes qui nous disent « Pasteur, dites-moi ce que je dois faire. » Et avec Valérie, nous répondons « Ben nous, on ne sait pas. Celui qui sait, c'est Dieu. » Et souvent, c'est tellement facile d'aller demander aux autres ou d'entendre une parole de quelqu'un d'autre pour savoir ce qu'on doit faire. Parfois, le Seigneur fait comme ça. Mais la plupart du temps, le Seigneur, il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on le cherche. Pour analyser, est-ce que vous faites régulièrement cet exercice d'analyse sur vous-même, cherchant Dieu et disant à Dieu, montre-moi ce qui va et ce qui ne va pas dans ma vie. On voit ici que Néhémie a considéré les murailles en ruine de Jérusalem. Il a réfléchi en voyant les portes consumées par le feu. Il les a pas juste regardés en disant « Oh là 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 là, oh la cata, ouh !» Non, il a vu, il a réfléchi. Il a réfléchi, c'est important. Tu peux faire l'analyse de certaines choses en disant « Oh, de toute façon, ma vie, c'est une catastrophe. Ma vie, c'est tout le temps les échecs. Ma vie, moi, je ne suis pas à la hauteur. » Et vas-y que tu prononces des phrases. Mais le Seigneur, il ne te demande pas de prononcer des phrases. Il te demande de réfléchir. De réfléchir en sa présence. Est-ce que si tu réfléchis, tu as l'impression que ta vie est en ruine ? Peut-être quelqu'un a l'impression que sa vie, c'est une ruine ce matin. Le Seigneur t'invite à te présenter devant lui pour tout reconstruire. Si ta vie est une ruine, tu as bien fait de venir ici ce matin. Parce qu'il y a un message d'espoir pour toi. Nous savons comment se termine le livre de Néhémie, par la reconstruction de la muraille. Amen. Dieu reconstruit là où tu as l'impression que c'est des ruines et qu'on ne peut plus rien faire. Est-ce qu'il y a des portes qui ont été consumées par le feu ? Quelle porte as-tu ouverte à l'ennemi ? Vous savez, on ouvre des portes. On ouvre des portes parfois où l'ennemi peut s'infiltrer. Alors que le Seigneur nous demande de vivre entouré de cette muraille protectrice de sa parole, de ses conseils, de tout ce qu'il nous a dit. Attention, il nous a prévenu de tout ce dont on doit se prévenir. Et parfois, on ouvre une porte. On se dit, oh, c'est pas grave, c'est juste une fois, ou c'est pas bien grave ça. Et puis l'ennemi s'infiltre. Vous savez, une fois qu'il prend la place, il ne va pas garder la petite place que vous lui avez donnée au départ. Hein. C'est important de réfléchir. Seigneur, est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce que j'ai ouvert une porte? Rappelons-nous qu'il ne faut pas être dans le déni. Le fils prodigue, vous savez ce qu'il a sauvé, le fils prodigue? Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, ce fils qui avait pris l'héritage de son père et qui est allé le dilapider avec les prostituées, et qui s'est retrouvé sans plus rien, à garder les cochons et à regarder la nourriture des cochons en disant « Ben moi j'aimerais bien manger ce qu'il mange », parce qu'il n'avait plus rien. Et Jésus nous dit que cet homme, à un moment donné, il est rentré en lui-même. Bizarre comme expression, hein. Il est rentré en lui-même. Les enfants, vous avez essayé de rentrer en vous-même? Non, n'essayez pas. Ça risque d'être vilain. N'essayez pas de rentrer en vous-même. C'est une image. N'essayez pas de le faire physiquement, en tous les cas. Mais faites-le avec votre esprit pour vraiment analyser ce qu'il y a dans votre être intérieur. C'est ça que ça veut dire, rentrer en soi-même. Qu'est-ce qu'il y a dans mon être intérieur? On est capable de passer beaucoup de temps à se regarder dans la glace. Hein? Les ados, vous voyez, je commence à voir les tablettes, on se regarde. Mais est-ce qu'on prend du temps pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'on peut avoir les belles tablettes, les beaux muscles, ou une silhouette de rêve, mais qu'à l'intérieur ce soit vilain? Et le Seigneur ne nous invite pas à nous regarder dans la glace pour voir si on est bien physiquement, hein. Il nous invite à nous regarder dans le miroir de la parole, comme nous le dit l'apôtre Jacques, pour regarder comme nous sommes. Et ce qui a sauvé le fils prodigue, c'est pour ça que le Seigneur veut insister au milieu de nous ce matin. Ce qui a sauvé le fils prodigue, c'est qu'il a pris le temps de rentrer en lui-même. Et mon frère, ma sœur, tu dois prendre le temps de rentrer en toi-même régulièrement pour analyser la situation. Sinon, tu sais ce qui va t'arriver? Son frère au fils prodigue. Lui, il était dans le déni total. Lui, il était bien. Lui, il était parfait. Oh, il n'avait pas pris l'héritage de son père. Hein. Il était resté, il avait servi son père fidèlement. Sauf que dans son cœur, ce n'était pas beau. Hein. Et c'est ressorti quand son frère est venu et qu'il a reçu tous les honneurs. Et là, son cœur a été dévoilé. Il était dans le déni. Il pensait qu'il était un bon chrétien. Et le diable est très fort pour nous faire croire que tout va bien. Je veux pas que vous essayiez de trouver à tout prix quelque chose qui va mal. Hein. Mais s'il y a une chose que la parole de Dieu veut nous dire ce matin, c'est que nous ne devons pas être dans le déni et que nous devons, c'est obligatoire. Et la Sainte-Seine y contribue d'ailleurs, hein, à faire cette analyse, rentrer en soi-même. Ça, c'est aussi un fondement de la foi. Ça a à voir avec la repentance, ça a à voir avec la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, comme vous le savez, c'est pas « Hop, un jour, ça y est, ouh, je suis né de nouveau. Ah, vous avez le nouveau Luc, là. Il n'y a plus rien à changer, tout est bon, ça y est, le Seigneur a transformé ma vie, alléluia !» Et non. Oui, le Seigneur a transformé ma vie, oui. Beaucoup de choses ont changé, je lui rends grâce pour cela. Mais je veux continuer à me tenir devant lui pour qu'il continue le travail qu'il y a à faire. Amen. Et surtout pas me dire à un moment donné que maintenant je suis quelqu'un de bien. La remarque que je me suis faite aussi, c'est que Néhémie, il y va de nuit. C'est bizarre, hein? Pour aller inspecter quelque chose, moi je serais allé plutôt de jour, on y voit mieux quand même. Bon, certainement ils avaient des torches. Mais en fait, c'est bien de prendre des temps, des vrais temps, pour ce temps d'analyse. Si on le fait en faisant la vaisselle, si on le fait en marchant dans la rue ou en prenant le bus, « Ah Seigneur, oui, au fait, c'est vrai, il faut que je rentre en moi-même. Tu peux me dire... Non. Je pense qu'il faut vraiment des temps consacrés où on cherche sa face. On prend le temps et la nuit, c'est le symbole du moment où tout est tranquille, normalement. Hein. Je vois les mamans qui ont, et les papas qui ont des enfants en bas âge qui disent « Mais oui, la nuit, c'est tranquille. Ouais. » Mais c'est l'image quand même d'un moment, et même si vos enfants pleurent, j'espère de tout mon cœur qu'ils ne pleurent pas toute la nuit. Vous avez quand même des moments où ils ne pleurent pas. Il faut en profiter, ou peut-être quand ils font la sieste l'après-midi. Eh bien, prendre ce temps pour s'analyser, pour se tenir devant Dieu. Oui, avant de reconstruire, il faut d'abord voir ce que l'ennemi a détruit en toi. L'ennemi a occasionné des destructions. Il y a des blessures intérieures. Là aussi, le Seigneur veut révéler des choses. Des blessures intérieures, par définition, comme elles nous font mal, qu'est-ce qu'on fait ? On les enterre. On dit non, mais c'est bon, c'est réglé. Sauf qu'on l'a vu avec le fils aîné de la parabole du fils prodigue. À un moment donné, il y a quelque chose qui fait ressortir ce qui nous a blessés. Et en fait, on croyait que c'était réglé, mais ce n'est pas réglé. Et le seul qui peut nous venir voir à l'intérieur de nos cœurs, et c'est le travail de la parole, vous connaissez le texte qui dit qu'elle sépare jointure et moelle, elle vient jusqu'à l'intérieur de nos cœurs pour nous donner de discerner. Et là, je veux vraiment m'adresser de tout mon cœur, et avec tout l'amour du Seigneur, à ceux qui ont été blessés sur le chemin. Afin qu'ils s'approchent du Seigneur, qui est le seul qui peut les guérir. Et il y a un texte dans la dédicace du temple où Salomon dit « Je veux... » Non, il dit au peuple « Quand vous priez, reconnaissez les blessures de vos cœurs. » Ça commence par là. Donc le Seigneur fait ce travail quand nous nous tenons devant lui, il va dévoiler des choses et là vous allez reconnaître « Oui, ça Seigneur, c'est une blessure, ça me fait mal. » Alors Seigneur, viens et délivre-moi. Il y a des couples qui sont en difficulté parce que les blessures sont là et que les choses ne sont pas réglées. Parce que dans le couple, les deux personnes ou l'une des deux ne fait pas ce travail pour venir devant Dieu. On ne peut pas reposer les fondements si on n'a pas fait ça d'abord, mes frères et sœurs. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, Jésus dit ceci, « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur, écoutez bien, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. » Vous voyez l'importance de réfléchir avant et non pas après. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est que face au constat, on peut faire un constat au niveau personnel, on peut faire un constat au niveau de l'Église. Où j'en suis, moi, Luc, où en est l'Église de Colomiers. Chacun peut faire son analyse, je ne vais pas commencer à vous questionner, parce que certainement on aura tous des impressions différentes. Hein. Ah, il n'y a pas assez de ci, il y a trop de ça, chacun a son ressenti. Mais le seul qui décide par rapport à tout ça, c'est le Seigneur. Et l'important, c'est de se tenir dans la prière. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait d'une part la prière individuelle et d'autre part la prière collective, où le mardi soir, on se réunit pour se tenir devant Dieu et pour lui dire aussi, Seigneur, montre-nous ce que nous devons changer. Ce sont des prières que nous faisons le mardi soir en disant, Seigneur, on a besoin que tu nous donnes la direction. Savoir ce qu'on doit faire ou peut-être arrêter de faire ce qu'on fait et que tu ne nous as pas demandé de faire. Devant cela, il est important de se mobiliser, mes frères et sœurs. Il doit y avoir une mobilisation pour que l'Église se reconstruisent, pour que l'Église avance, pour que l'Église change. À moins que vous pensiez que l'Église de Colomiers soit parfaite. Mais nous avons des choses à changer. Nous avons des choses à améliorer. Et Néhémie, chapitre 2, versets 17 à 18, lorsque il a constaté ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, il n'a pas gardé pour lui, et il a dit, je leur dis alors, donc il est allé voir tous les responsables, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Il dit où nous sommes. Il ne dit pas où vous êtes. C'est important, hein ? Où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Attention, le premier point est important, mais si on passe sa vie à s'analyser soi-même et à rentrer en soi-même, si on fait que ça, ça va pas être très joyeux. Le but, et d'ailleurs le but, c'est souvent ce que je dis à des personnes qui me demandent, mais pasteur, est-ce que je peux prendre la Sainte-Seine par rapport à une situation ou quoi ? Je leur dis, mais la Sainte-Seine, elle est là pour quoi ? Pour mettre le doigt sur une situation et pour qu'on la règle. Si on dit, ah là, je ne peux pas prendre la Sainte-Seine là. Non, non, je n'ai pas réussi à pardonner à telle personne ou j'ai tel problème dans ma vie. Non, 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 je ne peux pas la prendre. Et ça dure des mois. Est-ce que le but pour lequel la Sainte-Seine a été instituée est atteint ? Non. Le but, c'est que vous disiez, ah, j'ai pas pardonné. Je ne peux pas partager le pain et le vin. Si la personne est là, je vais aller la voir tout de suite. Si elle n'est pas là, je ne vais pas prendre la Sainte-Seine, mais je vais dire, Seigneur, je vais régler ça. Et la semaine prochaine, je vais prendre la Sainte-Seine. C'est pour ça qu'elle a été instituée. Et donc, si je fais mon analyse et que je reste tout le temps à dire, ah ouais, ah ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Ah mais non, mais là, ça ne va pas. Et puis le lendemain, ah ça ne va pas. Le fait que ça ne va pas, vous avez vu ce que ça a créé dans le cœur de Néhémie ? Un désir de se mobiliser pour dire non, on ne va pas rester dans cette situation. Amen. Et ça fait des siècles que ça dure, hein, les murailles par terre. Et là, il y a un homme qui dit non, c'est fini. On n'accepte pas ça. Amen. C'est la victoire de l'ennemi qui est là devant ses yeux. L'ennemi a détruit. Et pendant des mois, des années, le peuple d'Israël a vu la victoire de l'ennemi sous ses yeux sans réagir. Est-ce que nous, alors que l'ennemi est en train petit à petit de s'attaquer à l'église de l'Occident, les églises de notre région du monde dite civilisée, où le progrès, l'intelligence artificielle, voilà, tout ce qu'on a été capable de faire, nous les Occidentaux. Mais quand on voit l'état spirituel de l'Occident et l'état des églises en Occident, écoutez-moi, je pense qu'on devrait faire comme Néhémie. Réagir d'abord dans le jeûne et la prière comme il a fait, ensuite regarder les choses en face et puis se mobiliser pour dire on veut que ça change. Amen. Vous êtes d'accord ou pas ? Vous trouvez que je suis du genre pessimiste et négatif ? Non, je pense que je suis du genre réaliste. Et je ne veux pas me satisfaire. Et attention, je suis comme Néhémie, je dis nous devons. Nous. Je me mets dans le lot. Si on est dans le déni, il n'y a pas de mobilisation. Il y a de la paralysie. Il y a de la léthargie. Il y a de l'endormissement. Le diable, c'est le spécialiste de l'anesthésie. Il est très fort, hein. Si vous voulez un bon anesthésiste, lui, il va enlever la douleur que provoque le péché, normalement. Normalement, le péché doit nous faire mal. Le péché, je vous rappelle, c'est pas juste mentir, voler, etc. Péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Donc si quelqu'un peut lever la main et dire « Moi, j'ai jamais commis l'adultère, moi, j'ai jamais tué personne », ça, je sais qu'il y en a plusieurs qui lèveront la main. Mais si je demande qui fait toujours la volonté de Dieu, et jamais autre chose, je crois qu'il n'y a plus personne qui lève la main. Et c'est pour ça que Paul a dit, tous sont pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de faire la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Premièrement dans nos vies personnelles, mais ensuite tous ensemble. Et il y a beaucoup de choses que nous devrions faire et que nous ne faisons pas. Et le Seigneur veut nous réveiller, tout simplement. Si on analyse bien les choses, on verra que tout ce qui n'est pas digne de ce que le Seigneur attend de nous, que ce soit en tant que fils ou fille, c'est la dimension individuelle, ou que ce soit en tant qu'Église, ben toutes ces choses nous seront révélées. Néhémie voit la situation d'urgence et les magistrats qui vivent à Jérusalem sont bien sûr conscients de cette faillite et ils vont être d'accord de le suivre. Moi, je voudrais vous encourager à mobiliser, vous mobiliser et mobiliser les autres autour de vous. Vous avez cette capacité à mobiliser. Oh, moi non, pasteur, je suis timide. On doit s'encourager les uns les autres. S'encourager. Ouais ? Et puis, si vous n'êtes pas de ceux qui arrivent à encourager, eh bien, laissez-vous encourager alors. Laissez-vous mobiliser par les autres. Parce que les magistrats, ça faisait un moment qu'ils avaient baissé les bras et qu'ils s'étaient habitués à la situation. Mais quand Néhémie est venu, ils ont « Oh ! Oui ! Levons-nous et bâtissons ! Amen ! » Quelle réaction merveilleuse ! Ils auraient pu dire « Eh oh, c'était les chefs de Jérusalem !» Ils auraient pu dire « Qu'est-ce qu'il fait lui-là ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il arrive de Babylone là, où il est dans la maison du roi, et il vient, il fait son petit malin. » On n'est pas comme ça quand les gens nous disent hey, faut se réveiller, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse, il faut qu'on vienne à la réunion de prière, il faut qu'on prie ensemble, il faut qu'on aille évangéliser dans les rues, il faut. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Mais moi je prie chez moi, moi je. Non, non. Laissons-nous mobiliser, laissons-nous encourager. C'est le Seigneur qui envoie des frères, des sœurs à côté de nous pour nous encourager. Et moi, je crois que le Seigneur veut le faire au milieu de nous. Amen. On veut des mentalités de mobilisateurs ou de mobiliser. Voilà. Si ce n'est pas vous qui avez été les premiers à faire lever, eh bien, suivez celui qui a voulu faire lever les autres. Amen. Et puis le dernier point, ça c'est une répétition de la part du Seigneur. Mais vous savez que le Seigneur, il ne se lasse pas de répéter. Et Pierre le dira dans une de ses épîtres, hein, je ne me lasse pas de vous répéter les choses parce qu'il est important que vous les entendiez. On doit prendre chacun sa part. Les enfants, vous vous rappelez la fourmilière ? Vous vous rappelez la fourmilière ? Le culte de famille sur les fourmis ? Vous vous en rappelez ou pas ? Ouais. On avait parlé des fourmis. Et les fourmis, est-ce que dans une fourmilière, il y a une fourmi qui travaille et puis toutes les autres qui dorment ? Hein ? Qui c'est qui travaille ? Tout le monde. Eh ouais. Exact. Ben voilà. Toutes les fourmis travaillent. Ok ? Alors, ce qui est important, c'est de faire le parallèle avec l'Église. On a parlé aussi du sacerdoce universel pendant plusieurs dimanches. Et on sait ce que le Seigneur il attend de nous. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'on est tous des Lévites, tous consacrés au service du Seigneur. Amen. Au chapitre 3, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 3, j'aurais pu. Hein. Et je vous invite à lire le chapitre 3 de Néhémie. Où on voit que tout le monde, c'est pas juste Néhémie qui a dit « Allez, on prend la truelle, je ne sais pas s'il y avait des truelles à l'époque, mais bon, on reconstruit, allez, on y va !» Et puis il a pris quelques hommes qui étaient venus avec lui, puis c'est bon, puis les magistrats qui étaient d'accord, peut-être qu'ils auraient été d'accord pour donner un coup de main. Non, non, c'est tout le monde qui va se mobiliser. On lit juste les trois premiers versets. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil. À côté d'Éliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtirent aussi Zakur, fils d'Imri, les fils de Séna. Bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres, etc. etc. On va voir toute la population défiler et tous prennent leur part dans la reconstruction. Amen. Et d'ailleurs, moi ce qui m'interpelle, c'est que même les sacrificateurs s'y mettent. Les sacrificateurs, leur boulot, ce n'était pas de faire de la maçonnerie. Hein. Ils auraient pu dire, oh, vous y allez vous, hein? Nous, non, non, vous savez, il y a des tâches comme ça, des fois on dit, ah non, non, mais pas moi. Non, non, tous, je ne vais pas reparler du ménage encore, mais tous, on est tous appelés. Amen. On va avancer un peu. En fait, ce qui est important, on voit, vous avez vu ce qu'ils rebâtissent? Les portes. Ils commencent par les portes. C'est tellement important, ça. Vous savez qui a dit « Je suis la porte » hein? C'est Jésus. Et on veut que Jésus soit la porte de notre cœur, la seule et unique porte de notre cœur. Amen. Et ensuite, on va pouvoir reconstruire. Parce qu'une fois qu'on aura monté la muraille, on pourra fermer la porte et laisser entrer uniquement ce qu'on veut laisser entrer. Avant la conclusion, juste un rappel, quelques rappels. Tu peux avancer à la diapo 37, s'il te plaît. L'Église, c'est moi. C'est toi. Vous avez eu peur hein, quand j'ai dit l'Église, c'est moi. Ben oui, c'est moi dans le sens où vous pourriez dire chacun, chacune la même phrase. L'Église, c'est moi. Non, moi je dis pas c'est nous parce que ça met une dimension collective où on se dit c'est l'autre aussi. Non, non, c'est moi. C'est moi, Luc. Et vous pouvez dire chacun votre prénom. Dire l'Église, c'est moi, dites-le vous aussi. L'Église, c'est moi. Et vous mettez votre prénom. D'accord ? Ensuite, l'Église, c'est ma maison. On en a parlé de ça aussi. L'Église, c'est ma maison. C'est mon foyer. C'est une maison qui est ouverte pour accueillir, pour inviter. Et inviter, pas mes amis, mais les personnes en détresse, les personnes seules. Il y a tellement de misère autour de nous, des gens qui sont en difficulté. Et en fait, on s'aperçoit qu'on invite ceux qui vont bien. Parce qu'on va passer un bon moment à rigoler. Si on invite quelqu'un qui a des problèmes, ça ne va pas être pareil. Mais en fait, on devrait commencer par s'occuper de ceux qui sont en difficulté. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs? Heureusement que Jésus ne raisonne pas comme nous. Hein, qu'il ne s'occupe pas que de ceux qui vont bien. Lui, il a dit l'inverse. Hein, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Et peut-être que, tu vois, dans les moments où tu te remets en question, est-ce que je prends le temps d'inviter à ma table, dans ma maison, une personne qui est seule, une personne en souffrance, une mère célibataire, quelqu'un qui vient d'arriver, qui connaît personne. C'est ça le cœur qu'on doit avoir. Amen. L'Église, c'est ma maison. C'est aussi m'occuper de mes enfants, de mon épouse, de mon mari, de m'occuper de mon foyer et de faire que mon foyer soit l'Église. C'est l'Église, mon foyer. Et puis l'Église, c'est l'assemblée des croyants. C'est nous. Là, je suis d'accord. C'est nous aussi. C'est nous, tous ensemble. Mais il faut commencer par le commencement. C'est moi, c'est ma maison et c'est l'assemblée des croyants. Et c'est indissociable. Hein. Il y en a, ils s'arrêtent, c'est moi, c'est ma maison. Non, non. On est appelé à fréquenter une communauté de croyants. Je conclue. Néhémie 6,15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul. C'est-à-dire en 52 jours. 52 jours. C'est très peu. C'est moins de 2 mois. Moins de 2 mois pour reconstruire une muraille qui fait 4 km de long. Avec les portes et tout. Et en sachant que pendant cette construction, il y a eu des gens qui sont venus les embêter. Ils ont été obligés de construire avec une seule main à des moments. Un outil dans une main et une arme dans l'autre main. 52 jours, c'est pas miraculeux ça ? Vous savez pourquoi ça a pu se faire en si peu de temps ? Parce que tout le monde s'est mobilisé. S'il n'y en avait que trois qui s'étaient bougés, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et quand on s'unit tous, mes frères et sœurs, les choses vont tellement plus vite. Dans le chapitre 7, verset 1, il est dit « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans les fonctions les portiers, les chantres et les lévites. » En fait, chaque chose en son temps. Nous, on veut construire, on veut que l'Église se développe dans tel domaine, qu'on fasse des choses, etc. Mais d'abord, rebâtissons. Rebâtissons. Amen. J'aimerais qu'on prie quelques instants. Si tu dois retenir au moins une chose ce matin, c'est que tu as besoin de régulièrement te tenir devant Dieu pour lui demander, Seigneur, ma vie, est-ce que ça correspond à ce que tu attends de moi ? Est-ce que mes occupations, mes projets, tout ce qui prend beaucoup de temps dans ma tête, est-ce que c'est ce que tu m'as demandé de faire ? Ou est-ce que c'est ce que moi je veux faire ? Et puis après, quand j'ai fait ce que moi je voulais faire, ben le temps qui me reste, c'est pour toi. Je pense que si vous êtes dans cette case-là, il faut vraiment que vous vous remettiez en question. Celui qui a la première place, c'est Jésus. C'est Dieu. Et après, je fais ce que j'ai le temps de faire. Ça, c'est très important. Et je vous invite vraiment, dans ce temps où on va prier, mais aussi après chez vous, régulièrement, de penser au fils prodigue qui est rentré en lui-même. Ça a été salutaire pour lui. Il s'est aperçu que ce qu'il a voulu faire par lui-même, ça l'a amené à la ruine. Et il a pensé comme il était bien dans la maison de son père. Comme il était bien quand il faisait la volonté de son Père. Et c'est à ça que va nous amener le fait de nous tenir devant Dieu. Et croyez-moi, si vous faites ça, vous allez devoir réagir et vous mobiliser pour que ça change. Et je parle autant au plan individuel qu'au plan collectif. Amen. Qu'on puisse vraiment avoir ce cœur, cet état d'esprit, afin qu'effectivement, on puisse tous travailler ensemble. Comme les fourmis dans une fourmilière. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de m'interpeller moi premièrement. Et merci de nous interpeller à chacun. Je laisse vraiment le Saint-Esprit maintenant faire son œuvre dans chacun des cœurs. Et que chacun de nous puissions repartir en ayant ce désir de vraiment nous placer devant toi pour faire le point et savoir ce que tu attends de nous. Ce qui doit être changé, ce qui doit être reconstruit, ce qui doit être guéri. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là ce matin. Et tout ce que tu dis, ce n'est pas pour faire simplement un constat d'échec. C'est parce que tu penses reconstruction. Tu penses revitalisation. Tu penses à notre bonheur. Et nous te rendons grâce pour cela. Merci Seigneur. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire.